Bretagne 5. Écoutez la Bretagne.
Dans cet ouvrage, De la démocratie en Amérique, livre 1, paru en 1835, l'auteur Alexis de Tocqueville met en regard les pouvoirs attribués au président, Andrew Jackson, dans la toute jeune démocratie américaine et ceux d'un roi constitutionnel en France, en cette période retenue par l'histoire sous le nom de monarchie de juillet et sous le règne de Louis-Philippe Ier, roi des Français. Livre 1, chapitre 8, extrait. En quoi la position du président américain diffère de celle d'un roi constitutionnel en France ? Le pouvoir exécutif joue un si grand rôle dans la destinée des nations que je veux m'arrêter un instant ici pour mieux faire comprendre quelle place il occupe chez les Américains. Afin de concevoir une idée claire et précise de la position du président des États-Unis, il est utile de la comparer à celle du roi dans l'une des monarchies constitutionnelles d'Europe. Lorsqu'une monarchie se transforme peu à peu en république, le pouvoir exécutif y conserve des titres, des honneurs, des respects et même de l'argent, longtemps après qu'il y a perdu la réalité de la puissance. Les Anglais, après avoir tranché la tête de l'un de leurs rois, Charles Ier Stuart, et en avoir chassé un autre du trône, se mettaient encore à genoux pour parler aux successeurs de ces princes. D'un autre côté, lorsque les républiques tombent sous le joug d'un seul, le pouvoir continue à s'y montrer simple, uni et modeste dans ses manières, comme s'il ne s'élevait point déjà au-dessus de tous. Quand les empereurs disposaient despotiquement de la fortune, de la vie de leurs concitoyens, on les appelait encore César en leur parlant, et ils allaient souper familièrement chez leurs amis. Il faut donc abandonner la surface et pénétrer plus avant. La souveraineté aux États-Unis est divisée entre l'Union et les États, tandis que parmi nous, elle est une et compacte. De là naît la première et la plus grande différence que j'aperçoive entre le président des États-Unis et le roi en France. Aux États-Unis, le pouvoir exécutif est borné et exceptionnel, comme la souveraineté même au nom de laquelle il agit. En France, le pouvoir exécutif s'étend à tout, comme elle. Les Américains ont un gouvernement fédéral. Nous avons un gouvernement national. Voilà une première cause d'infériorité qui résulte de la nature même des choses. Mais elle n'est pas seule. La seconde en importance est celle-ci. On peut à proprement parler définir la souveraineté comme le droit de faire des lois. Le roi en France constitue réellement une partie du souverain puisque les lois n'existent point s'il refuse de les sanctionner. Il est de plus l'exécuteur des lois. Le président est également l'exécuteur de la loi, mais il ne concourt pas réellement à l'affaire, puisque, en refusant son assentiment, il ne peut l'empêcher d'exister. Il ne fait donc point partie du souverain, il n'en est que l'agent. Non seulement le roi en France constitue une portion du souverain, mais encore il participe à la formation de la législature, qui en est l'autre portion. Il y participe en nommant les membres d'une chambre et en faisant cesser à sa volonté la durée du mandat de l'autre. Le président des États-Unis ne concourt en rien à la composition du corps législatif et ne saurait le dissoudre. Le roi partage avec les chambres le droit de proposer la loi. Le président n'a point d'initiative semblable. Le roi est présenté et représenté au sein des chambres par un certain nombre d'agents qui exposent ses vues, soutiennent ses opinions, font prévaloir ses maximes de gouvernement. Le président n'a point d'entrée au Congrès, ses ministres en sont exclus comme lui-même, et ce n'est que par des voies indirectes qu'il fait pénétrer dans ce grand corps son influence et ses avis. Le roi de France marche donc d'égal à égal avec la législature, qui ne peut agir sans lui, comme il ne saurait agir sans elle. Le président est placé à côté de la législature comme un pouvoir inférieur et dépendant. Dans l'exercice du pouvoir exécutif, proprement dit, point sur lequel sa position semble le plus se rapprocher de celle du roi de France, le président a encore plusieurs causes d'infériorité très grandes. Le pouvoir du roi en France a d'abord sur celui du président l'avantage de la durée. Or, la durée est un des premiers éléments de la force. On aime et on ne craint que ce qui doit exister longtemps. Le président des États-Unis est un magistrat élu pour 4 ans. Le roi en France est un chef héréditaire. Dans l'exercice du pouvoir exécutif, le président des États-Unis est continuellement soumis à une surveillance jalouse. Il prépare les traités, mais il ne les fait pas. Il désigne aux emplois, mais il n'y nomme point. Le roi de France est maître absolu dans la sphère du pouvoir exécutif. Le président des États-Unis est responsable de ses actes. La loi française dit que la personne du roi de France est inviolable. Cependant, au-dessus de l'un comme au-dessus de l'autre, se tient un pouvoir dirigeant, celui de l'opinion publique. Ce pouvoir est moins défini en France qu'aux États-Unis, moins reconnu, moins formulé dans les lois. Mais de fait, il y existe. En Amérique, il procède par des élections et des arrêts. En France, par des révolutions. La France et les États-Unis ont ainsi, malgré la diversité de leur constitution, ce point de commun que l'opinion publique y est, en résultat, le pouvoir dominant. Ce principe, de sa nature, est essentiellement républicain. Aussi pensais-je que la France, avec son roi, ressemble plus à une république que l'Union, avec son président, à une monarchie.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.